RCF. Fidèle auditeur, auditrice de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte, avec Agora Défense. Bonjour, nous retrouvons, comme promis, notre invité de la première émission 2023-2024, à savoir Yves Debonneau, président d'Agora Défense, sur un sujet qui nous paraît fondamental pour la bonne compréhension de notre monde actuel. Rappelez-vous le thème que nous avions annoncé le mois dernier. La mer, les océans, objet de convoitise pour les nations. Bonjour Yves.
Bonjour Bernard.
La mer fait rêver les poètes, Charles Trenet est un plus bel exemple, mais pas uniquement. L'intérêt stratégique est primordial. Il suffit de remonter notre histoire pour ne plus proche d'espace méditerranéen, avec la brillante civilisation grecque et romaine. C'est qu'un point de départ. Mais Yves, je vous laisse la parole.
Ah, très bien. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, commençons peut-être sur ce sujet par prendre un peu de hauteur et de distance. Nous allons parler de l'océan global. La mer, l'océan, cet océan global, c'est une masse d'eau colossale qui couvre 72%, pour être très précis, de la planète. Les 28 autres pourcents étant occupés par les terriens, la terre ferme. 72% de la planète. C'est tout à fait considérable. Et les enjeux qui s'y développent aujourd'hui sont extrêmement importants. Alors, si on parle de géopolitique des mers, j'aime à définir la géopolitique comme la science des rapports de force. Aujourd'hui, ces rapports de force se déploient sous nos yeux sur l'ensemble de cet océan global. Nous pourrons en prendre quelques exemples tout à l'heure. Mais je vais peut-être citer quelques chiffres qui sont impressionnants par ce qu'ils nous révèlent du monde aujourd'hui. À trois pays, la Chine, le Japon et la Corée du Sud concentrent 94% de la production de navires neufs,
oui.
De navires marchands. Parmi les 10 principaux ports mondiaux, 9 sont asiatiques, dont 7 chinois. Pour parler des flux, sur cet océan global, 90% des flux commerciaux se font et 98% du trafic Internet à travers les câbles sous-marins. C'est tout à fait colossal. Nous vivons de ce qui se passe sur cet océan. Alors, je disais, c'est un lieu où s'exercent les rapports de force. Je prends un exemple pour illustrer, parce que je le trouve tout à fait pittoresque, mais d'un point important. Il y a peu de temps, un sous-marin russe a déposé sous le pôle Nord, a planté sous la banquise à 4000 mètres de fond, un drapeau en titane indiquant que la Russie affirmait sa possession de cet espace. Certains disent que c'est l'espace du vide, là, l'océan. C'est en partie vrai, dans la mesure où il y a une réglementation, des lois qui commencent à s'appliquer, des accords, un effort de réglementation pour tenter de réguler ce qu'on en fait. Au plan, par exemple, des matières premières, au plan de la ressource halieutique, c'est-à-dire la pêche. Mais fondamentalement, chacun, aujourd'hui, y fait ce qu'il veut. Et, bon, j'ai pris cet exemple du drapeau sous le pôle Nord, mais qui ne doit pas nous faire plus sourire que ça, parce que les implications sont colossales. La Chine, aujourd'hui, a décidé de coloniser un espace maritime en mer de Chine méridionale, en opposition avec les autres riverains, pratiquement tous les riverains de cette mer de Chine méridionale. Alors, ça n'est pas rien. Il doit passer, si je ne me trompe pas dans les chiffres, il doit passer 90% des marchandises mondiales dans cet espace-là.
Alors, ne pensez-vous pas, mon cher Yves, nous assistons à une accélération de l'histoire?
On peut utiliser le terme d'accélération, effectivement. Il y a un autre terme aussi, un basculement de l'histoire, c'est-à-dire que les centres de gravité se déplacent à très grande vitesse, vous avez raison. Oui. On a parlé du basculement de l'Atlantique vers l'espace Indo-Pac, l'Indo-Pacifique.
Oui.
C'est le deuxième grand basculement. Le premier grand basculement était celui qui s'était fait de la Méditerranée vers l'Atlantique.
Oui.
Et aujourd'hui, nous sommes dans ce basculement de l'Atlantique vers l'Indo-Pacifique. Les Américains l'ont pris totalement en compte en déplaçant la plus grande partie de leur énorme puissance navale dans cet espace Indo-Pacifique. Donc voilà, c'est un champ de la géopolitique, c'est un champ d'exercice des rapports de force indispensable à observer aujourd'hui. Nous pourrions prendre plusieurs exemples, vous pouvez me demander d'aller n'importe où. nous partirons ensemble pour dire un peu ce qui se passe dans différentes parties de cet océan global.
Mais justement, si nous revenons un petit peu plus près de notre pays, de l'Europe, que constatons-nous actuellement dans notre espace méditerranéen? En particulier, je pense à un pays qui a toujours été attiré vers cette Méditerranée depuis des siècles et des siècles, que ce soit du temps des tsars ou du temps du communisme, je parlais de la Russie. Alors, et de tous les enjeux que ça comporte, comme avec l'Empire ottoman, qui revient...
Oui.
Alors ça, c'est une chose très, très importante. Est-ce que nous en avons bien conscience, nous, Européens ?
Alors, vous avez omis un des grands jeux en Méditerranée, sur lequel je vais revenir. Mais pour parler de la Russie, oui, c'est une tension multiséculaire qui oriente vers les mers chaudes l'effort militaire, diplomatique, stratégique de la Russie, de l'Empire russe, en passant par l'Empire soviétique et en revenant à l'Empire russe actuel. Cette conquête des mers chaudes est une des composantes, d'ailleurs on pourrait extrapoler ces stratégies maritimes qui datent des tsars, en évoquant la stratégie des cinq mers, avec la mer Blanche, la mer Baltique, la mer d'Azov, la mer Noire, la mer Caspienne, avec tout un réseau de grands fleuves navigables, la Volga, le Don, etc. Et tout ça se terminant, nous le savons bien, dans la zone mer d'Azov, mer Noire aujourd'hui. Et nous avons là un des facteurs explicatifs du conflit en cours et des tensions en Ukraine. La Crimée a été une première manifestation vitale pour l'Empire russe, et la mer d'Azov a une grande importance, et aujourd'hui il s'agit d'avoir le débouché vers la Méditerranée. Souvenons-nous que l'engagement russe en Syrie était commandé par cet impératif stratégique pour la Russie de conserver la grande base de Tartous, qui est un énorme espace militaire en Syrie, et d'avoir ainsi une flotte permanente en Méditerranée. La question des détroits reste aussi prégnante. Vous avez évoqué la Turquie qui elle-même fait partie de ces colonisateurs. On peut prendre plusieurs exemples. Je me permets de rappeler que l'Union européenne, qui a la prétention, bonne et légitime, d'intervenir en Ukraine pour tenter de préserver un espace démocratique dans cette zone. Cette même Union européenne qui a cette prétention, depuis fort longtemps, a abandonné une partie du territoire d'un pays de l'Union européenne, d'un État indépendant qui s'appelle Chypre, l'a abandonné à une conquête brutale de la part du gouvernement d'Ankara, la Turquie, ou de l'Empire ottoman, si vous voulez. Souvenons-nous également qu'il y a fort peu de temps, un navire de prospection en Méditerranée orientale a violé incontestablement le droit en investissant une partie de la zone qui appartient à la Grèce, et en faisant accompagner ce navire de prospection par des bâtiments militaires qui ont manifesté une grande agressivité, y compris vis-à-vis d'un bâtiment français, d'un bâtiment militaire français.
Justement, la transition est parfaite, mon cher Yves. La France...
Pardonnez-moi, Bernard.
Allez-y.
Je voudrais continuer parce que j'avais mentionné un oubli.
Oui.
Et il y a de nombreuses stratégies des cinq mers. Il y en a une en particulier qui se développe dans l'espace Méditerranée, mer Noire, mer Caspienne, mer Rouge, Golfe Persique, et qui est une danse menée par un certain nombre d'États, Arabie Saoudite, Iran, Syrie, etc., qui aujourd'hui mènent une vraie politique, une vraie stratégie d'influence et de force dans l'ensemble de cette zone. Alors, on pourrait penser tout de suite aux questions énergétiques, mais derrière, il y a tout un aspect de développement. Alors, j'allais dire, on pense au pétrole, mais en réalité, c'est une zone délibérément orientée vers la production d'énergie renouvelable. Les grands pétroliers qui disposent de gros moyens sont en train d'envisager de développer des zones importantes d'énergie renouvelable qui vont avoir pour nous un grand impact et présenter un... Voilà, il faudra en tenir compte. Mais également, le développement... d'un espace touristique de haut luxe, avec, c'est vrai, un environnement assez exceptionnel, s'il est accompagné en plus d'une modernité, d'un confort, d'un luxe, etc., qui est amené à un grand développement. Donc là, nous avons dans cet espace méditerranéen, tout près de nous, des stratégies délibérées aussi de développement et de prise de possession de ces espaces.
Alors je vous arrête. En effet, le temps a parti et il est passé. Je vous propose de vous retrouver le mois prochain, Yves, avec le thème suivant. La France, puissance maritime, a-t-elle la force nécessaire pour sécuriser cet espace ?
Eh bien, nous parlerons de force et de puissance pour la France, effectivement, dont je dis en conclusion rapide qu'elle est en matière de zone économique exclusive la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis.
Donc, prochaine émission, la France, puissance maritime, point d'interrogation. Merci, mon cher Yves, pour ces explications. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices, pour rester fidèles à notre émission Le Berry se raconte, la vie militaire dans le Cher et le Berry, mais aussi à l'extérieur, comme le prouve cette émission. Bonne semaine à l'écoute de RCF.